Le progrès chrétien de George Whitehead, partie XI, suite, commentaire de l'éditeur du site, George Whitehead. Plus que tout autre Quake, avait eu affaire à trois rois d'Angleterre précédents, comme cela a été rapporté dans les sections précédentes de cet écrit. Il eut de nombreuses rencontres avec le roi Charles I, d'innombrables rencontres avec le roi Jacques I, et plusieurs avec le roi Guillaume I. Il n'existe aucun document relatant des rencontres royales durant les 12 années de règne de la reine Anne. Whitehead eut un succès éminent dans ses rencontres avec les rois précédents, parlant avec une grande connaissance du droit et du dossier des persécutions des Quakers, tout en maintenant respect, humilité, bonté, amour et tolérance. Il n'avertit ni n'accusa jamais aucun roi d'être irresponsable, ni même tardif dans l'accomplissement de promesses passées, mais il fut un véritable homme d'État chrétien. Ses requêtes et ses entretiens avec les rois du passé furent remarquablement et constamment couronnés de succès, au bénéfice des Quakers et des Dissides en général. À l'accession au trône du roi George, un Allemand de Hanovre, les Quakers étaient très soucieux de lui assurer leur bienveillance et leur amour à son égard, et bien sûr d'empêcher qu'ils ne se méprennent sur leurs intentions, ce qui pourrait conduire au retour des persécutions. Il était donc naturel que leur principal homme d'État, George Whitehead, désormais un vieillard de 78 ans, prononce l'allocution de bienvenue. Comme à l'ordinaire, ses paroles étaient empreintes de bonté, d'humilité, d'amour et de respect, mais, comme toujours, elles visaient à promouvoir la tolérance envers la foi quake. Par la patience, on peut convaincre un souverain, et une langue douce peut briser un os. PR 25, 15 discours et allocutions au roi George par George Whitehead le 3, e jour du 8e mois 1714, le peuple appelé Quakers présenta une adresse de félicitations au roi George, à l'occasion de son accession à la couronne, laquelle, ayant été lue au roi et gracieusement acceptée par lui, George Whitehead prononça un discours en ces termes. « Vous êtes le bienvenu parmi nous, roi George. Nous vous souhaitons de tout cœur santé et bonheur, ainsi qu'à votre fils le prince. » Le roi Guillaume y fut un heureux instrument pour mettre un terme à la persécution, en promouvant la tolérance, qui, ayant pour but d'unir les sujets protestants du roi dans l'intérêt et l'affection, a produit cet effet à un tel point qu'ils se montrent plus bienveillants les uns envers les autres, même parmi des convictions différentes, qu'ils ne l'étaient lorsque la persécution était à l'œuvre. Nous désirons que le roi nous connaisse davantage, ainsi que notre innocence, et que vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, est conforme à notre principe et à notre pratique. George Whitehead ayant ainsi parlé, on lui demanda son nom, ce à quoi il répondit « George Whitehead ». Et ayant à l'esprit de voir aussi le prince, et ayant fait part de son désir à un lord qui était gentilhomme de la chambre du prince, il se rendit aux appartements du prince. Ainsi George Whitehead, avec quelques-uns de ses amis, obtinrent l'accès et furent introduits par l'un des gentilshommes du prince dans une salle d'attente où le prince les rencontra. Puis George Whitehead lui parla, dont la substance était la suivante « Nous tenons pour une faveur d'être ainsi admis à voir le prince de Galles, et nous sommes vraiment très heureux de vous voir. » Ayant remis notre adresse au roi, votre père royal, et désirant vous rendre visite, en véritable amour, nous vous souhaitons très sincèrement santé et bonheur à vous deux, et que, s'il plaît à Dieu que vous surviviez à votre père et que vous montiez sur le trône, vous puissiez jouir de tranquillité et de paix. Je suis persuadé que si le roi, votre père, et vous-même, soutenez la tolérance, afin que la liberté de conscience soit maintenue inviolable, Dieu vous soutiendra. Puisse le choix de la sagesse, fait par le roi Salomon, être votre choix, avec l'intégrité et la compassion du saint Job envers les opprimés, et l'état du juste souverain recommandé par le roi David, à savoir, celui qui gouverne les hommes doit être juste, gouvernant dans la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève un matin sans nuages, comme l'herbe tendre qui sort de la terre, par un éclat clair après la pluie. Et ce discours fut favorablement entendu par le prince. En l'année 1715, après l'éclatement de cette rébellion contre nature, qui fut réprimé par les forces du roi à Preston, George Whitehead, accompagné de son ami John Butcher, ayant obtenu d'être admis en présence du roi, lui présenta un écrit dont nous insérons ici une copie, trouvée parmi les manuscrits de l'auteur après son décès, quelques mots en véritable amour au roi George humblement présentés. Puisque notre très miséricordieux Dieu a bien voulu, par sa puissance souveraine et sa providence, vous accorder une accession libre et paisible au trône de ses royaumes. Oh, que votre confiance et votre assurance soient dans cette même puissance divine, et que votre regard soit tourné vers cette lumière et cette grâce qui vous sont ainsi données. Et le Seigneur, sans aucun doute, confondra vos ennemis, et dissipera et chassera ce nuage sombre et cet esprit de rébellion qui se sont élevés contre vous et votre gouvernement légitime, établi pour la défense et le soutien de nos justes libertés et propriétés religieuses et civiles, contre la papauté et l'esclavage. Votre principe chrétien de liberté pour les consciences sensibles, étant maintenu et défendu contre la persécution, pilier de la papauté, le Seigneur vous soutiendra et vous défendra, vous et votre descendance royale, car assurément, la miséricorde et la vérité préservent le roi, et son trône est affermi par la miséricorde. Souvenez-vous de ce que l'Esprit du Seigneur a dit par le roi David dans ses dernières paroles, « Celui qui gouverne les hommes doit être juste, gouvernant dans la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin, un matin sans nuage. » Que le Seigneur, le Dieu des armées, soit votre défense, votre guide et votre conseiller, et qu'il remplisse votre cœur de sa sagesse, par laquelle les rois règnent et les princes décrètent la justice, car c'est dans cette sagesse que se tient la véritable souveraineté. Que vous, ô roi, puissiez être une bénédiction dans la main du Seigneur pour ces nations, et jouir d'un règne sûr, paisible et prospère en cette vie, et d'une couronne de justice dans celle à venir, telle est la prière fervente d'un ancien serviteur de Jésus-Christ, et d'un sujet véritablement aimant et fidèle. George Whitehead, au mois appelé mai 1716, le peuple appelé Quakers, lors de leur assemblée annuelle à Londres, rédigea une adresse et la présenta au roi, attestant leur loyauté et exprimant leur sentiment de la providence remarquable de Dieu en confondant la récente noire conspiration. Lors de la présentation de cette adresse, George Whitehead fit au préalable un discours au roi, indiquant que dans leur assemblée annuelle, tenue pour les préoccupations religieuses de leur société, s'efforçant de promouvoir et de mettre en pratique les devoirs de la religion qu'ils professent, le sentiment de la grande délivrance avait eu un tel poids sur leurs esprits qu'ils étaient disposés à l'exprimer dans une adresse au roi George, que Dieu par sa providence avait amené ici et préservé, de sorte qu'ils pouvaient bien dire qu'il était George, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, etc. Et que, de même que les hommes portaient cette formule frappée sur la monnaie dans leur poche, on pouvait souhaiter qu'elle fût imprimée dans le cœur des sujets. Bien qu'ayant alors plus de 80 ans et faible de corps, il continua néanmoins à rendre son témoignage dans les assemblées publiques, à la vertu et à l'excellence de cette grâce divine qu'il avait soutenue depuis sa jeunesse, communiquant, en des expressions très sensibles, de si beaux fruits de ses propres expériences, qu'un auditeur attentif ne pouvait s'en aller sans édification. Et même lors de réunions portant sur les affaires de l'Église, où parfois une diversité de sentiments pouvait surgir, il exprimait ses pensées avec une force convaincante et un raisonnement solide, non moins admirable que l'intégrité sans tache de ses cheveux gris était honorable. Il écrivit, dans la dernière partie de sa vie, plusieurs petits traités, notamment un, dans la 86e année de son âge, intitulé « Une épître à nos amis chrétiens, appelés Quakers, etc. », lequel étant déjà imprimé, nous y renvoyons. Soutenu par la conscience d'une vie bien conduite, il traversa les dernières infirmités de l'âge avec patience et résignation chrétienne, et le 8 jour du mois appelé mars 1723, mourut de la meilleure des morts, car comme Cicéron en la personne de Caton l'Ancien l'exprime excellemment, la meilleure fin de la vie d'un homme est lorsque l'entendement et les autres sens demeurant intacts, la nature défait pièce à pièce son propre ouvrage, qu'elle avait elle-même assemblé. Tout ce qui est conforme à la nature doit être tenu pour bon, et quoi de plus naturel que de voir mourir les vieillards, chose qui arrive aussi aux jeunes gens, malgré l'opposition et la répugnance de la nature. Les jeunes gens, donc, me semblent mourir comme une flamme violente est éteinte par une grande abondance d'eau, mais les vieillards, comme lorsqu'un feu s'étant consumé, s'éteint de lui-même, sans contrainte, et de même que les pommes, lorsqu'elles sont vertes, sont arrachées des arbres par force, mais lorsqu'elles sont mûres, tombent d'elles-mêmes. Ainsi la violence prive les jeunes gens de la vie, et la maturité les vieillards, ce qui en vérité m'est si agréable qu'à mesure que j'approche de la mort, il me semble voir la terre, et après un long voyage. Commentaire de l'éditeur du site, avant les témoignages conclusifs, voici d'abord le plus grand des témoignages, de la parole du Seigneur au-dedans, concernant son fils et serviteur George Whitehead, et beaucoup furent convaincus par cet extraordinaire et puissant partisan. Il est intéressant de noter l'emploi par le Seigneur du mot descriptif partisan, dont la définition est celle d'un défenseur ferve, voire militant d'une cause. Ce que George Whitehead fut assurément un ardent, magnifique soldat de la vérité pendant 71 ans, sous le commandement de son roi et maître éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Nous conclurons, par le portrait tracé de lui après son décès, en deux témoignages, l'un écrit par Richard Claridge, son ami intime et connaissance, qui ne lui se vécut que de quelques semaines, l'autre par les amis de la réunion mensuelle à Devonshire House à Londres, dans le voisinage de laquelle il avait demeuré pendant de nombreuses années. Témoignage de Richard Claridge concernant George Whitehead. George Whitehead fut un homme que le Seigneur avait hautement honoré en son temps, l'appelant vers la 16e année de son âge à la reconnaissance de la vérité bénie, et vers la 18e, à lui rendre un témoignage public. Dans ce témoignage, le Seigneur le conserva fidèle jusqu'à la fin de ses jours, qui eut lieu le 8 du premier mois calendrier julien, appelé mars 1722, alors âgé d'environ 87 ans. Le Seigneur lui avait accordé une telle mesure de ses dons divins, foi, sagesse, jugement, compréhension, renoncement à soi-même, patience, amour, douceur, parole, et autre grâce de l'Esprit, qu'il fût un instrument entre ses mains pour ouvrir les yeux des aveugles et détourner les hommes des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Et comme il plut au Seigneur de faire de lui un ministre capable du Nouveau Testament, son discours et sa prédication ne furent pas dans des paroles séduisantes de sagesse humaine, mais dans la démonstration de l'Esprit et de puissance, afin que notre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Encore 2:4-5, de sorte que lorsqu'il parlait, il parlait comme les oracles de Dieu, et lorsqu'il servait, il le faisait selon la capacité que Dieu donne. 1 Pierre 4:11. Il ne fut pas comme beaucoup qui trafiquent la parole de Dieu pour le profit, mais avec sincérité, de la part de Dieu devant Dieu, il parlait en Christ. 2 Cor 2:17. Son ministère était un ministère saint et vivant, et beaucoup de ceux qui vivent encore en portent témoignage dans leur cœur et leur conscience. C'était un homme éloquent, puissant dans les Écritures, et ferve d'esprit. Actes 18:24-25. Un homme de bien, rempli du Saint-Esprit et de foi, et beaucoup de personnes furent ajoutées au Seigneur. Actes 11:24. Il était un ancien, que le Seigneur avait oint pour le ministère spirituel et évangélique, suscité parmi beaucoup d'autres, près des premiers jaillissements de ce jour d'Évangile, après une longue nuit d'apostasie, qui avait recouvert cette nation et d'autres d'épaisses ténèbres, en ce qui concerne les choses relatives au christianisme. Et bien que des liens et des afflictions l'accompagnassent, rien de tout cela ne l'ébranlait, et il ne tenait pas sa vie pour précieux à ses propres yeux, afin d'achever sa course avec joie, ainsi que le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Actes 20:23-24. Car ayant ce ministère, selon la miséricorde qu'il avait reçue, il ne perdit pas courage, mais il renonça aux choses honteuses et cachées, ne marchant pas avec ruse ni falsifiant la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, se recommandant à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 Cor 4:1-2. Richard Claridge, témoignage de la réunion mensuelle de Devons Ir Ouse. Bref récit et témoignage concernant notre cher et digne ami, George Whitehead, nos anciens et dignes amis, qui au matin de ce jour d'Évangile, furent à peu près au même moment envoyés pour déclarer la vérité, avec ce notre ami maintenant décédé, sont aujourd'hui pour la plupart allés vers leur repos. Toutefois, la majorité des amis d'âge mûr peut l'avoir connu depuis longtemps, ainsi que sa gravité, sa sagesse et ses capacités au-delà de beaucoup dans l'Église du Christ. Mais pour les amis plus jeunes qui n'ont pas eu cette connaissance, nous trouvons qu'il naquit à Sunrig, dans la paroisse d'Orton, dans le comté de Westmoreland, vers l'année 1636, de parents honnêtes, qui lui donnèrent une éducation en études grammaticales. Vers sa 14e année, lorsque quelques amis, par la puissante puissance de Dieu, furent rassemblés pour être un peuple, le Seigneur voulut le visiter, et par le témoignage de la vérité, il fut touché et convaincu de la nécessité qu'une œuvre intérieure et spirituelle fût connue et opérée sur les âmes des hommes, et du vide et de l'insuffisance de l'apparence et des formalités extérieures, hors de la vie et de la puissance. En l'année 1654, et dans sa 18e année, le Seigneur l'envoya prêcher l'Évangile éternel en vie en puissance, et étant passé par York, Lincoln et Cambridge, il eut quelques servis en chemin et voyageant à pied, arriva jeune homme dans le North qu'est le Suffolk, où il visita quelques réunions d'amis, des églises steeplelose et des assemblées de croyants sobres. Dans l'une d'elles, presque toute la réunion fut convaincue par la puissante puissance de Dieu, à travers son témoignage et sa prière vive et pénétrante. Il demeura quelques mois dans le North qu'est aux environs de Norwich, où tenant des réunions, il prêcha l'Évangile éternel, et ainsi détourna beaucoup de personnes des ténèbres vers la lumière, et de la puissance du péché et de Satan vers Dieu et sa puissance, afin que les gens ne continuent pas dans des formes et des ombres vides, mais viennent à la vie et à la substance de la vraie religion, et connaissent le Christ comme leur véritable enseignant et guide. Grande fut son œuvre, son labeur et ses voyages dans ces comtés, par lesquels beaucoup furent touchés, convaincus et affermis dans la vérité bénie, et certains furent suscités pour lui rendre un témoignage public. Mais il subit une grande opposition, des difficultés de longues et pénibles emprisonnements, et de sévères flagellations, pour son témoignage à la vérité en ses années de jeunesse, bien que peu reste aujourd'hui qui en ait été témoin vivant. Toutefois, par un journal de sa propre main que nous souhaitons voir imprimé, cela apparaîtra plus largement. Et la lecture de celui-ci, nous l'espérons, pourra édifier et être utile aux générations présentes et futures. Nous ne voulons pas être trop particuliers en relatant ses souffrances, emprisonnements, services et voyages à travers la plupart des régions de cette nation, mais nous poursuivons en disant quelque chose de notre propre expérience et de la connaissance que nous avions de lui, et de ses services éminents et de sa grande préoccupation pour la paix et la prospérité de l'Église du Christ partout, pendant son long séjour parmi nous dans cette ville. Nous pouvons dire qu'il était de ceux que le Seigneur avait opportunément qualifiés et préparés, par sa puissance divine et son Saint-Esprit, pour l'œuvre à laquelle il était appelé, et par laquelle il fut fait l'un des ministres de l'Évangile les plus capables de notre époque. Il avait une grande expérience de l'œuvre de Dieu et des profonds mystères du royaume céleste, et il était souvent ouvert en réunion pour les déclarer et les exposer, dans la claire démonstration de l'esprit et de la puissance, dispensant droitement la parole, ouvrant et convainquant l'entendement de beaucoup, qui n'étaient pas familiers avec la voie et l'œuvre de la vérité, et réconfortant, confirmant et affermissant le peuple et les enfants du Seigneur dans leur marche vers Sion. Il ne fut pas seulement un défenseur zélé de la vraie foi et doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et un affirmateur de celle-ci dans un témoignage solide et intelligible, mais il fut aussi vaillant et habile pour les défendre contre les adversaires et opposants, et au long cours de nombreuses années, il prit soin d'orner la doctrine de notre sainte profession par une vie circonspecte et une conduite pieuse, dans lesquelles les fruits de l'esprit, amour, joie, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur et tempérance brillent. Si qualifié, et d'un tempérament doux et paisible, il était tenu en bonne estime parmi la plupart des catégories de personnes qu'il connaissait, ce qui contribua beaucoup à lui ouvrir la voie dans son service public pour la vérité et dans ses sollicitations fréquentes auprès de plusieurs rois et parlements, évêques et grands personnages de notre pays, pour le soulagement et la libération de ses amis et frères souffrants, sous de cruelles persécutions et de durs emprisonnements, et pour la liberté de conscience, ainsi que pour obtenir un allègement. Dans ses travaux d'amour et ses services éminents, parmi d'autres frères, notre cher ami fut principalement exercé, et le Seigneur fut avec lui et lui ouvrit un chemin dans le cœur des gouvernants du pays, de sorte que son labeur fidèle fut souvent couronné de succès, pour la consolation et la joie du cœur de nombreux frères souffrants. Il fut un bon exemple pour le troupeau, par son assiduité à fréquenter les réunions du premier jour et de semaine pour le culte public, et d'autres réunions au service de la vérité, aussi longtemps que ses forces physiques le lui permirent, disposé à saisir toutes les occasions de publier et de promouvoir la vérité, zélé à soutenir le bon ordre et la discipline dans l'Église du Christ. Et comme il n'était pas prompt à s'en prendre à quiconque, il était tout autant exemplaire à ne pas se hâter d'exclure ceux en qui apparaissait quelque chose de bon, désirant toujours encourager le bien en tout, se rendant aux faibles, mais reprenant ce qui était en faute dans un esprit de douceur et de sagesse, afin qu'ils soient préservés dans l'amour de la vérité et viennent dans l'unité de l'unique esprit, qui est le lien de la paix. Nous pouvons dire en vérité qu'il fut un père tendre dans l'Église, et comme tel, il eut une grande compassion, compatissant avec les amis dans l'affliction, qu'elle fût du corps ou de l'esprit, un visiteur assidu des malades, s'efforçant de consoler l'âme affligée, attentif à prévenir les différends et diligent à les apaiser. Chers amis, nous pourrions dire bien davantage au sujet de ce cher ami défunt, un ancien digne d'un double honneur, mais il ne nous appartient pas de faire de longues louanges formelles des morts. Nous avons plutôt choisi de ne donner que de brèves indications de quelques-unes des vertus chrétiennes et des qualités dont il était doté, croyant qu'il existe encore un témoin dans le cœur de beaucoup, qui témoigne en sa faveur, ainsi que de ses labeurs fidèles et de son service en son temps, désirant que le Seigneur en suscite beaucoup, à la place. Il plut au Seigneur de visiter notre cher ami par de vives douleurs et une faiblesse du corps, au point qu'il fut empêché pendant quelques semaines de se rendre aux réunions. Mais il exprimait souvent ses désirs pour le bien de l'Église du Christ et pour que les amis vivent dans l'amour et l'unité. Il demeura dans un état d'esprit patient et résigné à la volonté de Dieu, attendant son grand changement, désirant plutôt être dissous et être avec Christ, disant que l'aiguillon de la mort avait été ôté. Peu avant son départ, il exprima qu'il avait eu une vue ou un souvenir renouvelé de ses labeurs et voyages. Depuis sa première conviction, il les considérait avec une grande consolation et satisfaction, et s'émerveillait de la manière dont la présence du Seigneur l'avait accompagné et l'avait fait traverser toutes ces choses. Il quitta cette vie dans une grande paix et quiétude, le 8 au jour du premier mois, 1723, vers la 87e année de son âge, et nous croyons fermement qu'il est mort dans le Seigneur, qu'il est maintenant au repos de ses labeurs, et que ses œuvres le suivent. Il fut ministre de l'Évangile pendant environ 70 ans, et fut enterré le 13 du premier mois dans les cimetières des Amis, parmi nombre de ses anciens frères, à côté de George Fox. Son enterrement fut suivi par un très grand nombre d'amis et d'autres personnes. Nom de la réunion mensuelle, à Devonshire, le 15 jour du troisième mois 1723, par William Mackay, William Hodgson, Theodore Eccleston, John Lee, John Knight, Joseph Russell, Lascelles Metcalfe, John West, Arnold Froude, Samuel McNeth, William Priest, Calebuc, John Belch, Milwaukee, Benjamin Sanchez, Jonathan Stephen, Robert Plumstead, Samuel Bowley, John Bake, Samuel Scott, Jonathan Scarf, John Eton, Thomas Head, George Fossick, John Lune, Joseph North. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu, au travers de la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.